Merci beaucoup Martina. Là encore une présentation qui nous permet vraiment de dépasser des stéréotypes bon, sur ce contrôle des frontières et puis sur l'idée même de détention. Je pense que voilà la première chose, la chose la plus importante que tu mets en avant dans ton papier, c'est de nous permettre de dépasser l'idée donc d'une rétention ou d'une détention qui serait simplement entre quatre murs, mais aussi d'envisager la détention au travers du containment, au travers du piège dans des espaces, dans des couloirs, dans des canaux. Et comme tu le dis bien, parce que, et c'est la deuxième grande réflexion à mon sens particulièrement importante de ta présentation, sur le rôle de la détention, qui contrairement à ce qu'on pourrait évidemment penser, donc ne cherche pas forcément à mettre fin à la mobilité ou à se débarrasser des mobiles, mais au contraire, donc de la freiner, de la canaliser, de la contrôler avant tout. Et enfin, un troisième point que je voulais souligner, ce sont finalement les processus croissants d'irrégularisation qui découlent de cette volonté de rationaliser et de contrôler la migration et les politiques migratoires. Et finalement, lorsqu'on croise vos deux présentations, on trouve énormément de points de réflexion qui se répondent et qui s'enrichissent. Je pense notamment à... alors, on pourrait y revenir avec Antonio, parce que finalement, tu n'as pas énormément développé cet aspect qui est la dispersion de la détention. Hein, là aussi, Martina, tu n'en as pas parlé parce que tu as parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Vous aviez chacun énormément à présenter. Mais aussi, cette multiplicité des autorités, on le sait pour les hotspots, puisqu'il y a à la fois des agences européennes, les autorités nationales, des acteurs privés qui sont impliqués. En Libye, autorités reconnues ou non, milices, groupes divers. Donc, on a une dispersion géographique donc de la détention au travers d'espaces qui sont mouvants en parallèle, une dispersion et une multiplicité des acteurs qui détiennent ou qui sont impliqués dans cette détention. L'autre élément qui se répond dans vos deux présentations, c'est dans les deux cas, la détention ne vise pas forcément à mettre fin à la mobilité. Antonio l'avait déjà souligné. On n'expulse pas forcément justement les personnes qui sont détenues. On les garde pour les rendre plus vulnérables, pour les réutiliser, etc. Également, là où se répondent vos présentations, sur la sélection. Alors, sélection des individus, bien sûr, en fonction de la nationalité, en fonction, en Libye... de leur couleur, de ce qu'on imagine de leur place, et sélection des territoires, avec bien sûr cette notion de pays, là aussi qui va être très fluctuante, cette notion de pays sûr, où on a normalement une définition juridique qui a été faite au niveau européen, où finalement chaque État doit décider, normalement juridiquement, enfin en tout cas administrativement, quel pays est sûr pour lui, mais au final, où on a des désaccords et où parfois seulement une pratique du pays sûr. Et c'est notamment le cas, comme tu l'as dit Antonio, vis-à-vis de l'Éthiopie, qui bien sûr ne peut pas être considérée juridiquement et politiquement comme un pays sûr, mais qui l'est dans la pratique finalement au travers de ce couloir humanitaire. Deux derniers points. Dans les deux cas aussi, dans les deux zones, dans les deux espaces, ou plutôt dans ce grand espace, l'accentuation de phénomènes qui préexistaient. L'irrégularisation des demandeurs d'asile, ça c'était déjà une pratique depuis les années 90. On a une accentuation très récente qui s'associe à la criminalisation, bien sûr, y compris la criminalisation de ces demandeurs d'asile. Et enfin, la liberté, ça c'était ta conclusion Martina, mais c'est aussi en filigrane de celle d'Antonio, la liberté et la détermination des migrants au-delà de tous ces mécanismes. Puisque même si ces personnes qui bougent n'ont pas forcément un plan très structuré au départ, ça peut se faire par étapes, ce sont des personnes qui vont, par exemple pour la Libye, bah, continuer à y aller malgré tous les obstacles qu'on y met. Et puis, comme tu l'as bien dit, Martina, des personnes qui voudraient être protégées, mais pas forcément dans un pays où elles n'ont aucun lien, où elles ne pensent avoir aucun espoir. Voilà, je ne sais pas si vous voulez peut-être chacun tout de suite réagir ou poser des questions à la présentation de l'autre. Parce que moi, j'ai des questions sinon aussi.
Moi, j'ai une question pour Antonio. Juste une clarification. Tu as parlé du New Pushback Strategy et je suis intéressée. Ça consiste en quoi? Parce qu'il y a deux jours, il y a eu ce pushback dans les eaux internationales de la part de la Libye qui a été vu comme le premier pushback.
L'idée est que c'est nouvelle parce qu'il a changé le contexte politique. Que dans le vieux cas de le pushback, il y a une... The pushback strategy was based on a clear agreement between Italy and Libya, and so we can say that Gaddafi Libya was a non-democratic government, so was a stable government, so there is a law and there is order. In nowadays Libya, so the context is very more and more shifting and very... is very fragmented, and this is the point we are discussing about that during the lunch. Is new because the outcome, the goal is still the same, but the instrument could be some of difference, because for example, first point, in 2008 there is an agreement between the Italian Parliament, so the agreement was passed by the Italian Parliament and by the Gaddafi leadership. Today, the solution was, for example, not to sign another agreement at the level of state, but so it's just a sort of memorandum between the... So, you know, a level that don't need the consensus of the Italian Parliament, for example. And the other point that was stressed in Delphine during the lunch is that Italy was supporting the activity of the Libyan Coast Guard, but it seems to me that is less involved than in the past, probably because there is some fear to be again and again targeted by the international law against Italy and against the another possible sentence of the international.
Now I was curious if you think court. That there is also something new at the level of national waters, international waters in the practice of pushback. So if you, because the pushback that took place a few days ago has been presented like the first pushback taking place in international waters.
Mais tu es en train de parler pas des gardes-côtes libyens qui ont intercepté Sea Watch.
Oui, c'est ça.
Qui ont intercepté un bateau des migrants qui était
d'une ONG qui était en train d'être secouru par une ONG.
Oui.
On parle la même chose de
oui,
la
oui,
même chose.
Oui, qui était en train d'être.
Oui.
Mais après les migrants ont été
revenus. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la condamnation de l'Italie en 2012. Donc, ce qui a été clairement condamné, c'est que la responsabilité italienne a été clairement identifiée, puisque c'était un bateau italien qui avait pris à son bord les migrants et qui avait transféré... En plus, ils se sont déplacés. Ils sont allés vers les Libyens et ont transféré les migrants sur un bateau libyen. Donc ainsi, il n'y avait pas de questionnement sur la responsabilité. C'était bien les Italiens qui avaient renvoyé. Et c'est pour ça, bon, c'était un questionnement,
oui,
on
non,
a
mais
eu
c'est,
cette
c'est
discussion
ça, parce qu'aujourd'hui c'est différent parce que le bateau c'est italien mais il a été donné au gouvernement libyen et oui, c'est différent.
Donc est-ce qu'on peut parler de pushback à niveau
légal? Alors je pense pas. Okay. Parce que c'était un bateau de garde-côte italien. Enfin c'était je ne me souviens plus quel type d'autorité, mais ils étaient clairement liés à l'État italien. Là, c'est une ONG, donc on ne peut pas invoquer... Alors, on pourrait éventuellement faire quand même une action. Juridiquement, on peut toujours quand même. Mais à mon sens, ce serait difficile de rattacher ça aux autorités libyennes et du coup de leur... de les taxer, de les accuser de refoulement. Et je pense que justement, c'est quelque chose qui peut être utilisé par l'Italie. Parce que là, c'est clairement, par contre, à partir de Rome qu'on a contacté les Libyens pour qu'ils viennent.
Oui. Donc, c'est opération de secours.
Donc, on peut très bien utiliser subrepticement l'action des ONG, qui du coup, maintenant, les navires italiens, donc officiels, n'ont plus besoin finalement d'aller si près des côtes de la mer territoriale libyenne. Il suffit de laisser les ONG y aller et d'appeler finalement les gardes-côtes libyens pour qu'ils viennent les rechercher. Alors, je ne sais pas si ça durerait longtemps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être utilisé aujourd'hui pour ne pas engager la responsabilité
de l'État. Oui, c'est la limite entre search and rescue et interception en mer.
Oui. Non, c'est une question finalement d'acteurs, de jouer sur les acteurs. Parce qu'on n'est pas à la limite de ça, on est toujours à la limite de ça. Quand les Italiens, parce que les navires italiens, même qui contrôlent, doivent faire du search and rescue. Oui. Donc on est toujours à cette frontière-là. Oui. Mais là, c'est la question de jouer sur, utiliser d'autres acteurs qui sont présents finalement.
Mais c'est vrai certainement qu'un autre élément de changement avec le passé, que dans le passé, il y a sept réseaux qui travaillent très bien dans le pushback. Aujourd'hui, il y a aussi le réseau de smuggling qui travaille plus bien que dans le passé.
Okay.
C'est comme une compétition dans les deux directions qu'il n'y a pas dans le passé. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, le réseau de smuggling c'est plus organisé que dans le passé. Et je crois aussi que bon, peut-être aussi qu'il y a des contacts directs entre l'NGO et les...
Tu penses ça
parce oui, que mais pas, mais pas, oui, mais pas dans, le, dans, le, dans les idées de cette accusation italienne. Ce n'est pas une chose comme une mafia générale. C'est seulement que les personnes qu'ils vont aménager, les rescues, ils sont en contact con les personnes qui vont faire le passeur parce que, bon, de mon avis, peut-être normal dans le... dans le sens que le passeur, dans le sens que les NGO, elles sont sûres que le passeur il va à porter les personnes. C'est plus économique, plus facile, plus sûr d'avoir des contacts
et oui, mais c'est s'engager. Pour ça qu'on a aussi dit que voilà, la présence des ONG facilitait le travail des trafiquants qui n'ont plus besoin d'aller très loin. Puisqu'ils savent qu'il y a les ONG. Mais là, on voit que ça peut être aussi à l'inverse, les États qui profitent eux aussi de la présence des ONG pour faire le pushback. C'est vraiment...
C'est très difficile de définir la vérité, non?
Parce que mais je pense que les deux, parce que c'est très complexe, c'est une instrumentalisation des différents.
C'est ça, que c'est sûrement il y a la compétition entre les deux directions, les deux logiques. Des passeurs et des containers.
Alors moi je voudrais te poser aussi une question encore sur Italie-Libye. Tu as parlé d'un point qui est très sensible parce que ça revient tout le temps mais finalement on n'a jamais de preuves. C'est la question de la participation des Européens et en l'occurrence des Italiens dans la construction et le monitoring en plus tu as dit des centres de détention. Parce que c'est une accusation qui est particulièrement grave, justement en termes de responsabilité, ça pourrait engager beaucoup, mais finalement, on a l'impression parfois que ce ne sont que des bruits, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle. Et c'est vrai que pourtant on trouve dans des textes, y compris dans des textes européens, ce projet-là, mais on ne sait pas si...
Bon, mon idée, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est de pousser les Libyens. Parce que bien sûr que toutes les opérations de déportation, ils sont faites par les Libyens. Mais bien sûr que les Italiens, ils vont avoir et éventuellement à pousser à faire vite ou à... Bon, je suis, quand je suis été à Rasgravulli, qui c'est une des sept ports de départ, il y a sept Libyens qui m'a conté un peu des choses. Il m'a dit oui, oui, c'est... il y a des carabiniers, des... comme la police italienne, qui viennent, il a dit, à visiter les centres de détention où je travaille, qui est un centre près de Rasgravulli. Il y a deux possibilités. Ou les Italiens ils vont à chercher quelques personnes spécifiques, mais bon, je ne crois pas que c'est ça. Et l'autre possibilité, c'est qu'ils vont à faire comme un reporting de ce qui se passe. Parce que aussi, toutes les opérations de... Parce qu'une autre chose, que dans une conférence en Tunisie, il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères libyen qui a fait une communication sur les activités de ce département pour contre la for combating the illegal migration du ministère libyen. Et il a dit que, bien sûr, les Libyens sont en train de déporter personnes, surtout en Niger, parce que c'est la chose plus facile. Et c'est pour ça, je crois qu'en Niger, l'Union européenne est en train de... il a ouvert un autre camp de détention. Parce que les personnes qui vont dans, au-delà des confins libyens, ils vont dans cet centre. Et, mais la question, c'est que cette représentante du ministère des Affaires étrangères libyen, il a dit aussi qu'il coûte très cher pour la Libye cette opération de déportation. Il coûte très cher. Et j'ai demandé, bon, voilà, et les argent que vous utilisez pour cette opération, où vous le trouvez, c'est un argent libyen? Il a répondu qu'il est libyen, mais il est aussi il vient aussi de la coopération internationale, etc. Je crois que les Italiens ou autres Européens n'ont pas une activité directe, mais bien sûr qu'il a une activité de contrôle de qu'est-ce que on pense que le Libyen doit faire. Mais bien sûr que c'est difficile.
Oui, d'impulsion, c'est sûr, d'influence. Donc ça, c'est sûr qu'il les pousse à détenir, ouais. Financer,
ouais. Former. Former, bien sûr. Oui, il y a une mission dans les bateaux italiens pour former cette...
Il y a une formation.
Sì.
Et sur cette dispersion des centres de...
C'est une grande question. Et c'est le limite de ma recherche. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai travaillé au dehors de Tripoli. J'ai travaillé dans l'intérieur, dans le sud, dans les Nefusa, et dans la côte, Tripoli et à Rasgravulli, Misurata. Et c'est seulement une petite partie de toute la complexité libyenne. Mais bien sûr qu'une autre ville clé dans la migration libyenne, c'est Zouara, bien sûr. Mais c'est très difficile de travailler à Zouara, parce que c'est probablement la ville où il y a le plus grand réseau de la migration irrégulière. Et bien sûr que c'est très... Bon, c'est peut-être dangereux de faire une enquête de terrain dans cette ville. Il y a, mais c'est une chose intéressante qu'à Zouara, il y a eu, je crois, pendant l'année 2015,
une révolte de la d'une partie de la population contre le, cette personne qu'il va aménager les réseaux, parce que probablement ils vont à transformer complètement la ville. Il devient une hub pour tout le commerce illégal, pas seulement de l'immigrant, et bon, c'est plus, il n'est pas plus la ville, une ville normale de la Libye, comme probablement une partie de la population il est en train de vivre.
Et toi, Martina, tu avais fait un terrain dans les hotspots?
Oui, je ne suis pas entrée à Lesbos. Je suis entrée à l'hotspot de Chios. À Lesbos, c'est impossible. Parce que c'est pour les journalistes, pour les chercheurs. Mais c'est plutôt facile parce que maintenant, les migrants peuvent sortir de l'hotspot pendant la journée et c'est visible. C'est comme Lampedusa. Donc, à Lampedusa, je suis entrée, mais un mois avant de la transformation en hotspot, et aussi à Pozzallo. Un mois avant la transformation dans le spot, parce que c'est impossible d'entrer en tant que spot. Tandis qu'à Chios et Samos, c'est plus informel de la gestion des spots par rapport à Lesbos. C'est complètement militarisé.
Là, est-ce que très récemment, parce que en quelle année tu es allée en 2015
En Grèce, avril 2016 et juillet 2016 aussi.
D'accord, donc c'est très récent.
Oui, en Italie, 2015, plus ou moins.
D'accord.
Et aussi 2016 à Lampedusa, parce que le spot de Lampedusa, c'est un peu différent des autres, c'est-à-dire les migrants arrivent à sortir pendant les jours de façon informelle et non officielle. Il y a une place où ils peuvent s'enfuir, et la police, c'est quelque chose pour... diminuer la pression, non, pendant la pression sociale, la pression, je sais pas, parce qu'il y a les risques de révolte, donc ils laissent les migrants sortir pendant la journée, parce que c'est nuit, donc c'est impossible pour de s'enfuir de l'île. Et non, mais je suis d'accord à propos de la politique de la dispersion. Et en fait, c'est maintenant je suis en train de faire ce projet, ça s'appelle The Politics of Migrant Dispersal in France. Que c'est sur la politique.
Avec Calais, ceux qui sont...
Oui, sur la politique de la dispersion en France après l'évacuation, le démantèlement de la jungle de Calais. Et donc, cette politique de dispersion m'intéresse beaucoup parce que je vois vraiment une stratégie de la part des États, pas seulement de la France, mais aussi de l'Italie, de disperser les migrants.
Et du Maroc.
Et de, ouais.
Qui fait la même chose qu'en France, qui parfois récupère les personnes qui sont à la frontière avec l'Espagne. Avec des bus, comme l'a fait la France, et essayer de les mettre ailleurs dans plusieurs villes.
Et ça, c'est une stratégie qui a commencé au Royaume-Uni avant qu'en France et en Italie, donc dans les années 90. Et c'est une stratégie officielle du gouvernement anglais.
D'accord.
Et de disperser les demandeurs d'asile dans des petites villes. Mais je pense que cette stratégie a été analysée par des chercheuses en Angleterre, mais sans, je pense, une perspective politique. C'est-à-dire, il y a toujours derrière, il me semble, au moins en France et en Italie, aussi cette question de diviser les multiplicités, les groupes de migrants, quand ils sont dans des frontières critiques comme Ventimiglia, comme au Calais. Donc, quand il y a aussi la possibilité que les migrants forment une communauté autonome aussi, les espaces à Paris, à La Chapelle, donc où il y a des assemblements des migrants. Et donc, il y a cette nécessité de disperser pour gouverner les individus, mais aussi pour gouverner les groupes de migrants qui sont là-bas et pour empêcher la formation des groupes de migrants. Il me semble que, parce que maintenant, la stratégie est très visible en France avec les CAO, mais c'est quelque chose qui, pour moi, vient de l'Italie au niveau institutionnel. Donc, en 2011, avec la proclamation de l'accoglienza diffusa, accueil diffusé, je pense, cette stratégie a été vue par l'Italie comme la solution à l'augmentation des arrivées en Italie des migrants de la Libye et de la Tunisie. Et donc, cette multiplication des petits centres, qui sont comme les CAO en France et qui ne sont pas sujettis à des standards. Donc, c'est-à-dire, ça passe n'importe quoi dans ces centres d'accueil pour les demandeurs d'asile parce que ça dépend vraiment de comment la coopérative qui gère les centres a la capacité ou la volonté de managing the migrants. Et je vois quelque chose de similaire aussi en France. Et même, donc, il y a cette stratégie officielle et il y a une stratégie plus informelle qui consiste à empêcher la formation des espaces migratoires comme à Ventimiglia, comme avec ces transferts forcés du nord au sud de l'Italie. Donc, de Ventimiglia à Taranto, ça coûte 5 000 euros chaque fois, chaque voyage. Et chaque semaine, il y a un bus de Ventimiglia, les mardis après-midi, de Ventimiglia vers Taranto. Il y a des migrants que j'ai rencontrés à Ventimiglia qui ont fait les mêmes tours, le même voyage, 5-6 fois. Donc, ils sont arrivés à Taranto et après, ils sont revenus avec les trains à Ventimiglia. Et donc, il y a, oui, soit au niveau informel et aussi au niveau des stratégies du gouvernement, de l'État, en France, en Italie, mais aussi, oui, au Maroc. Mais en Europe, je pense que les premières a été l'Angleterre.
Très intéressant, parce qu'on ne pense pas assez au modèle britannique.
Non, mais c'est horrible, c'est un modèle.
Ah oui, oui.
Je ne sais pas si tu es d'accord, Martina, mais je pense aussi que ce système de reloquer les migrants dans ce petit centre, il a aussi développé un racisme diffusé. Parce que dans les modèles passés, quand les migrants ils sont plus ou moins dans les grandes ou moyennes villes, beaucoup des Italiens ils vont à connaître la question des migrants. Pas directement, mais indirectement. Aujourd'hui, oui. Aussi dans les petits villages, parce que l'Italie, vous savez qu'il n'y a pas les grandes villes en Italie. L'Italie, le paysage urbain de l'Italie, c'est pas des grandes villes. L'Italie, c'est des petites villes. Aussi en compétition avec l'une ou l'autre, mais c'est vrai. Et l'émigration, dans ce contexte, il a diffusé des stéréotypes de racisme, d'intolérance contre les migrants.
C'est intéressant de le voir comme ça parce qu'on pourrait se dire à l'inverse que justement de ne pas avoir concentré des grands nombres, ça a pu faire connaître un peu partout, justement de manière diffuse, l'étranger.
Mais il peut fonctionner s'il y a, parce qu'il n'y a pas en Italie, s'il y a une préparation de la ville, petite ville qui va accueillir la migration. C'est pas possible d'envoyer dans une petite ville très périphérique sur beaucoup de niveaux un nouveau centre avec les migrants. Il va être un grand problème dans le managing.
Mais aussi en Tunisie, c'est plutôt la même chose. Après la fermeture du camp de Choucha, maintenant les autorités tunisiennes ne veulent plus quelque chose comme un camp de réfugiés. Donc ils font tout pour disperser les migrants partout.
Ah oui, parce qu'ils ne veulent plus de camp, d'accord.
Oui. Et ça, oui, c'est vraiment une position sur laquelle le gouvernement tunisien est très strict. Donc ils ne disent pas de camp en Tunisie. Et c'est ça que la pression de l'Union européenne, je pense, n'aura pas de succès parce que. Aussi au niveau des camps, pas seulement des détentions, mais pour les demandeurs d'asile. Et Choucha, c'était une expérience nouvelle pour la Tunisie, mais aussi d'un côté, ils ont dit que la Tunisie a accueilli, et donc il y a toute cette rhétorique aussi, c'est la vérité. Mais en même temps, c'était aussi un vrai coup au niveau économique. Et de toute façon, après un an, l'expérience de Choucha a commencé à devenir un problème politique. Parce que la présence des subsahariens, des Africains, comme ils les appellent, à la frontière libyenne, donc il y a eu des attaques racistes contre les migrants au camp de Choucha de la part des Tunisiens. Et donc, maintenant, il y a vraiment cette tactique de la dispersion. Ils sont complètement invisibilisés. Il y a encore 48 personnes à Choucha, maintenant. mais dans la invisibilité.
Oui, c'est ça, un camp est visible. Et puis surtout s'il dure, il y a aussi la question de l'hospitalité qui est généralement là pour du temporaire, mais quand ça dure, après effectivement le racisme davantage se développe.
Ouais.
Mais je voulais revenir justement sur cette idée de racisme, parce que tu parles de la Tunisie, et toi Antonio, tu as parlé dans ta présentation du racisme qui aurait été accentué finalement. Dans ta présentation, même tu insistes beaucoup, même plus que sur de l'accentuation, même une création.
Oui, c'est comme un process dans l'histoire que se va à réactualiser. En Libye, il y a cette dimension de le contraste entre les Noirs et l'Arabe. Dans l'histoire des longues périodes de la Libye. Et cette nouvelle migration, ils vont à.
C'est la juste réveiller.
C'est vont réveiller, mais c'est le même aussi de la côté des mondes, côté d'historien aussi pour l'Italie. Le racisme en Italie, il est lié à le passé colonial de l'Italie. Il est très lié à le passé colonial. L'Italie, il a eu la législation. Législation raciale. Il a eu un régime de ségrégation raciale dans la colonie, presque le même de l'apartheid en South Africa. Et bon, cette hérédité.
Sur les territoires coloniaux.
Et aussi sur le territorial.
Italien, d'accord.
Sur le territoire italien, les personnes qui sont été discriminées pour la loi sont les juifs.
Oui.
Dans la colonie sont bien sûr toutes les personnes qui tous les sujets coloniaux. Bon, je crois que l'histoire c'est une partie très importante de cette dimension actuelle. Et en Libye, de mon côté, il y a des recherches qui vont à démontrer que dans les années 80, il y a des populations libyennes noires, qui bien sûr sont libyennes, ils ont le passeport libyen, ils sont nés en Libye, ils sont en Libye de plus de générations, mais qui vivent attachés, tu sais, non la Kabila, il y a la dimension sociale della Kabila, della famiglia. Della grande famiglia. Il y a des populations noires libyennes qui sont attachées à des populations libyennes qui ne sont pas noires. Et c'est l'hérédité de la relation, mais c'est le même aussi dans le sud de la Tunisie.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi
ce même
phénomène en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et que d'ailleurs ces trois pays, enfin les sociétés civiles de ces trois pays, avaient lancé toute une campagne contre la discrimination raciale. Ne m'appelle pas Asie, ne m'appelle pas esclave, parce que c'est le nom qu'ils disent à entendre dans la rue. Donc c'est effectivement ce même phénomène, et ça part d'associations de protection des migrants, mais qui ont inclus justement les nationaux noirs, plus foncés, disons que les autres. Mais la Libye n'a pas été associée. Enfin, j'imagine que c'était par manque de lien entre les sociétés civiles libyennes et même tunisiennes.
La société civile en Libye.
Mais c'est intéressant ce changement que tu as souligné. Donc, avec Gaddafi, il n'y avait pas beaucoup de problèmes pour les migrants qui étaient en train de travailler. Donc
si tu as le papier.
Ok, parce que ça, c'est quand. J'ai parlé avec beaucoup de migrants subsahariens qui étaient au camp de Choucha et ils étaient très, très contents, énormément contents de la Libye. Ils disaient, ici c'est la galère en Tunisie, la galère au niveau métaphorique, c'est-à-dire c'est impossible de vivre en Tunisie. Au niveau bureaucratique, la Tunisie c'est le premier pays de l'Europe. Tandis qu'en Nord d'Afrique, la migration s'organise, en Libye c'est la jungle, mais en même temps on n'était pas discriminés, ça c'était vraiment...
Non, ben c'est... En partie, c'est vrai, en Libye, dans le dans les années de Gaddafi, tu peux travailler, tu vas trouver le travail avec facilité, tu vas à gagner beaucoup parce que tu vas penser que dans les années 2000, je crois que tu peux prendre entre les 50 et les 100 dinars libyens pour une heure de travail. Et bon, c'est beaucoup, hein, parce que c'est entre le 25 et 50 euros. Bon. 50 euros, c'est plus ou moins que l'Italie.
Quelle université, hein.
Mais à l'inverse, y a ceux qui dénoncent aujourd'hui, parce que vous avez sans doute entendu cette campagne aussi lancée par l'OIM, que l'esclavage de... Il y aurait des témoignages d'esclavage aujourd'hui en Libye. Donc, ce qui est sans doute vrai et ce qui va sans doute avec une accentuation justement de la criminalisation dont on parlait, mais finalement qui existait déjà aussi. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire tous les deux, il y avait tous les témoignages disent bon, les gens venaient en Libye, c'était simple, il y avait du travail, ils étaient bien payés, etc. En même temps, c'était la jungle. Tout pouvait arriver, surtout quand on n'avait soit pas de papier, soit pas de réseau, parce que sinon, quand on était bien implanté, normalement ça allait. Mais ça arrivait déjà d'être emprisonné, racketté, même de devoir travailler gratuitement. Donc, ce qui est aujourd'hui...
Oui, il a changé.
Ce qui continue, mais davantage finalement qui est accentué, c'est-à-dire que c'est quand même une pratique, une mentalité, mais qui... Peut-être qu'il explose aujourd'hui ou qui est accentué, qui se répand, je ne sais pas.
Non, mon idée, c'est que c'est comme le passage dans la mer. Il y a comme deux circuits.
De niveaux
différents. Et c'est vrai, si tu arrives en Libye avec le papier, tu vas dans le niveau où tu travailler sans beaucoup de problèmes. Si tu arrives dans l'autre niveau, peut-être plus difficile. Mais la vérité, c'est que dans les années de Gaddafi, beaucoup de migrants sont arrivés avec les papiers et après une réponse de la politique de l'Italie et de l'Europe, Gaddafi l'a changé, non, la politique de visa, et beaucoup de personnes sont devenues irrégulières. Et ils sont été dans le... Mais aussi cette question de la corruption en Libye, c'est normal. C'est pas seulement la migration pour toutes les choses. C'est une dimension constitutive de le travail en Libye. Et c'est pour ça que probablement c'est... Oui, il y a un problème, mais pas... c'est comme une chose que tu vas considérer et tu vas, je me rappelle beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas. Ils me disent bah si c'est vrai, je suis été dans une prison pour un mois, pour trois mois, pour une fois ou pour plus qu'une fois, mais bon, je veux payer et c'est comme une petite... C'est comme si tu vas payer quelque chose pour travailler. Libye, tu ne vas pas payer, il n'y a pas de... Comment se dit
De taxes, de droits d'entrée.
Tu ne sais pas rien. Et pour les migrants, c'est comme que tu vas payer quelque chose. Mais aussi dans le contexte de la provenance de l'immigrant, le contexte de la Nigeria ou d'autres pays de l'Afrique du Sud, la corruption c'est aussi une réalité très connue.
Mais donc ce changement est dû essentiellement au fait que l'Union européenne est en train
dans la politique de le visa. Oui, il a été une réponse à la... tu dis le changement de la politique de visa ou quoi?
Non, que maintenant les migrants sont mis en prison aussi s'ils ont des...
Non, maintenant, je m'arrête à 2014. Non, 2014, bien sûr qu'il n'y a pas plus une autorité centrale. Et, oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont capables de mettre des personnes en prison aussi s'il y a les documents, mais parce que peut-être aussi que les documents sont plus valables, non? Mm-hmm. Et bon, il va dépendre d'une localité à une autre, c'est plus fragmenté.
Ah non, pour les. C'est pas un résultat des accords de 2012 avec l'Italie.
Non, c'est une dimension libyenne.
Ah, ça, ok. C'est pas la réponse à la pression de l'Italie.
Non, c'est une. C'est
parce que l'intérêt de la Libye, c'est encore d'avoir des migrants là-bas, non? Parce que tu as dit l'économie.
Oui, mais il y a beaucoup. La question, c'est que si tu vas à garder une immigrant dans. Je me rappelle, j'ai une histoire d'une personne qui vient de le Ghana. Il a été en Libye dans le début de l'an 2000. De l'an 2000, il a été avec la famille. Il va faire aussi une petite compagnie de construction. Et il a été pris dans cet centre, mais avec tous les papiers, mais seulement parce que la personne il connaît, que cette personne il est riche, il est un migrant riche, il peut payer pour la. C'est un système qui n'est pas seulement sur le migrant, c'est plus diffusé en Libye, parce que aujourd'hui le premier danger en Libye, c'est pas le conflit. C'est cette criminalité très, très diffuse que seulement il y a des personnes qui vont faire ce travail. Ils vont prendre les Libyens riches, je ne sais pas la parole.
Tandis que l'augmentation des déportations est le résultat de l'accord avec.
Oui, oui, c'est ça. Oui. Mais je crois que cette question de prendre les migrants pour avoir de la monnaie, c'est une chose qui est transversale dans la société libyenne. C'est le migrant comme c'est le Libyen riche ou l'étranger, qui bien sûr, c'est le Libyen, ils sont très, très proches aussi à prendre les étrangers pour avoir des monnaies du gouvernement italien, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'on fait d'aller en Libye pour faire des enquêtes plus précises.
Et tu disais que des Libyens arrivent donc maintenant en Italie?
Oui. Il y a des Libyens qui sont en train d'arriver en Italie par les bateaux. Et je crois pour la crise économique. Ce sont des Libyens qui se sont trouvés dans cette crise économique et ils viennent avec les bateaux, mais bien sûr que pour un Libyen c'est incroyable de rester dans un centre italien d'accueil. C'est pas possible avec le noir. Et c'est pour cette raison que normalement les Libyens ils ne restent pas dans les centres, ils vont peut-être au dandere sur les Libyens, ou peut-être aussi j'ai vu des personnes qui vont direct à l'ambassade de la Libye pour demander de rentrer en Libye, parce que non, il y a cette idée que l'Italie c'est c'est une place où tu vas trouver le travail, toutes les choses dans une petite temps, mais ce n'est pas ici. Il y a aussi des Libyens qui sont dans les prisons parce qu'ils sont été accusés d'être le pilote, non, de le bateau. Mais on connaît, non, que la définition de le pilote, le smuggler, c'est very tricky, non?
Cosa?
Ta mamma.
No. On va conclure ici. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.